Deux étapes dans la quatrième journée de visite de Naïma Moutchou. La ministre des Outre-mer a visité le camp Est et elle est à Lifou depuis le milieu de la matinée. Les choses prennent bonne tournure. Après un bras de fer et la fermeture des cantines pendant une semaine, le directeur de l'enseignement catholique est satisfait des avancées avec le gouvernement. La construction et la commande publique fait face à des défis inédits depuis les émeutes. Pour y faire face, le gouvernement organise dans une semaine un séminaire sur la maîtrise d'ouvrage. Boualem Sansal Gracié est libéré. Une bonne nouvelle pour l'écrivain franco-algérien et ses proches, mais un revers pour le Quai d'Orsay. C'est Berlin qui a dénoué la situation. La suspension de la réforme des retraites votée à l'Assemblée nationale. Le texte va maintenant passer par le Sénat avant de revenir au Palais Bourbon. Et puis dans la page sport du football notamment, c'est veille de match pour l'équipe de France. Une victoire demain sur l'Ukraine et les Bleus de Didier Deschamps seront qualifiés pour la Coupe du Monde 2026. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. L'investissement participatif peut-il participer à la relance de l'économie? C'est ce que nous verrons dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu dès la fin de ce journal. Plusieurs nouveaux projets sont en effet prêts à recevoir des levées de fonds. Qui peut y participer? Quels sont les avantages pour financer un projet calédonien? Nous en parlerons avec nos invités. Amandine Durand, qui est co-gérante d'IFP Patrimoine, Nicolas Laurent, associé fondateur d'Invest in Pacific et deux porteurs de projets, Pierre Dorchy de la société Digibar et Joël Despujol de la société Agrilo. Logique. Des jeudis de l'économie à retrouver donc dès la fin de ce journal. Quatrième et avant-dernier jour de visite en Nouvelle-Calédonie pour Naïma Moutchou. La ministre des Outre-mer est arrivée en milieu de matinée à Lifou. Nous allons y revenir dans un instant. Mais elle a commencé sa journée, Léana Colombo, par une visite au camp Est.
Oui, Naïma Moutchou a notamment visité la maison d'arrêt, un quartier de détention qui a été rénové à la suite de la mutinerie de mai 2024. La pépinière est un des chantiers d'insertion agricole. Une visite d'une heure qui s'est achevée avec la rencontre de l'intersyndicale du centre pénitentiaire. Après avoir écouté leur revendications, Naïma Moutchou a tenu à les rassurer.
D'abord, je vais vous rassurer parce que pour moi, ça n'est pas abstrait. Donc, je suis ministre depuis 4 semaines, mais ça fait 8 ans que je suis parlementaire et que je travaille sur les sujets calédoniens. Et je viens du monde de la justice. Moi, je suis avocate de métier. Je sais très bien comment ça se passe. Et quand je suis venue déjà il y a quelques années ici, j'ai bien vu les difficultés. Il y a des choses qui ont évolué dans le bon sens, mais il faut continuer. Il faut certainement même accélérer. À l'Assemblée nationale, moi, j'ai parlé de vous. Je parle souvent du personnel pénitentiaire et avec tous les ministres de la justice qui se sont succédés. On a essayé aussi de faire avancer des choses. Là, il y a des dossiers très concrets. C'est pour ça que je suis venue sur le terrain. J'ai pris temps, dans une semaine un peu chargée, mais pour moi c'est un sujet important. Donc il y a des revendications, je vais les regarder. Il faut voir ce qu'on peut arriver à faire très vite. La construction d'un centre pénitentiaire massif, ça prend beaucoup de temps, des années. Qu'est-ce qu'on peut faire avant pour soulager un peu la pression? Et après, je sais qu'il y a d'autres choses qui sont sur la table. On va les regarder au cas par cas. On va voir combien ça coûte, parce qu'il faut de l'engagement financier aussi de l'État. Et faire les choses en bonne intelligence et continuer à dialoguer. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. C'est dans cet état d'esprit que je suis venue. C'est aussi pour vous dire tout mon soutien. Je sais ce qui s'est passé il y a un an et demi de ça aussi. Et donc, je continuerai à parler de vous à Paris, mais surtout à avancer dans des actions concrètes.
Un échange bref entre la ministre et l'intersyndicale composé de FO, l'USTKE et l'USOINC, mais suffisant pour donner espoir de changement, souligne Victor Wayaridri, porte-parole de Force ouvrière.
On est satisfait, on va dire. On est satisfait de ce qu'elle dit. Après, comment dire, on peut espérer. On attend encore parce qu'elle va entamer le dialogue avec le ministre de la Justice. J'espère nous avoir écoutés, bien sûr, par rapport à nos revendications. Au risque professionnel, comment améliorer les conditions du travail d'un surveillant vis-à-vis des détenus. On a eu dernièrement la visite du DAP, le directeur de l'administration pénitentiaire, et du directeur interrégional qui sont venus en mois de septembre. Et là, maintenant, c'est la ministre des Outre-mer. Ça veut dire que c'est quand même fort, notre revendication. Après, on va entendre les paroles. Il faut avoir des actes derrière, peut-être à long terme, à court terme, on espère.
C'est la deuxième fois que l'intersyndicale se réunit cette année pour les mêmes raisons. Elle n'exclut pas de se réunir de nouveau si les conditions ne s'améliorent pas et pour alerter notamment sur la hausse des agressions des surveillants ces derniers mois.
Et après le camp Est, Naïma Moutchou a donc pris la direction de Lifou où elle est arrivée en milieu de matinée. Une visite, Charlotte Coulson, qui a débuté par une série d'entretiens.
Oui, c'est d'abord un accueil chaleureux qu'ont réservé les autorités coutumières de Lifou à la ministre. Et ce, dès son arrivée à l'aérodrome où une troupe de danseurs l'a accueillie par des chants et des danses traditionnelles. Le grand chef Kiazé y a effectué un premier geste de bienvenue en remerciant la ministre. « Merci d'avoir foulé la terre de nos ancêtres », a dit l'un des représentants coutumiers. « Les âmes de nos vieux sont en train de vous regarder. Merci pour votre présence ». C'est ensuite à l'hôtel de la province des îles que Naïma Moutchou a rencontré Mathias Oineux, le président de la province. Pendant la coutume bienvenue, il ne s'est pas exprimé, mais les représentants des royaumes ont été clairs. Ce qui nous importe, c'est surtout l'identité kanak. On ne veut pas changer notre manière de faire, c'est à vous de vous adapter. Naïma Moutchou a rappelé quant à elle son attachement aux traditions, aux coutumes, à l'écoute surtout. Personne ne veut changer l'autre, les mémoires s'additionnent, elles ne s'effacent pas, a-t-elle dit. Il faut cesser les affrontements et reprendre le tissage, celui de la natte. Fin de citation. La ministre vient à l'instant d'entamer une première séquence de discussion, vous l'avez dit donc, avec Mathias Ouaneux. Elle s'entretiendra ensuite avec les maires des trois îles, Lifou, Marée et Ouvéa. Les échanges sont interdits à la presse. On ne peut que deviner les sujets de discussion, les difficultés budgétaires de la collectivité, avec une dette estimée à plus de 6 milliards de francs, mais aussi la desserte aérienne et maritime des îles Loyauté, qui met à mal les habitants des îles, et bien sûr le développement du secteur touristique sur les îles. Il est en difficulté, particulièrement depuis les émeutes de l'an dernier, une séquence qui sera dédiée cet après-midi. Naïma Moutchou visitera le village d'Eazo, un lieu aménagé spécialement pour l'accueil des touristes. Nous souhaitons avoir un temps d'échange et d'écoute avec la ministre concernant la relance touristique, a dit Julie Larande, qui est à la tête de Nouvelle-Calédonie Tourisme. Elisabeth Rivière, la présidente de la Chambre de métiers de l'artisanat, est aussi présente pour l'occasion. Naïma Moutchou devrait d'ailleurs rencontrer plusieurs entreprises locales, la Maison de la Vanille et la Casse du Miel cet après-midi. En direct de Lifou, de l'hôtel de la Province des Îles, Charlotte Coulson, RRB.
Et demain, ce sera le dernier jour de la visite de Naïma Moutchou en Nouvelle-Calédonie. Elle débutera sa journée dans les locaux de Radio Rythme Bleu. Elle sera en effet notre invitée du matin à 5h30 et sera interrogée par Elisabeth Noir. La reprise du service des cantines dans les établissements scolaires de la DEC. Elles étaient à l'arrêt, vous le savez, depuis le 3 novembre en raison d'un bras de fer entre la direction diocésaine de l'enseignement catholique et les institutions, notamment le gouvernement, au sujet du financement de l'enseignement privé. Le gouvernement a adopté hier les arrêtés qui répartissent l'enveloppe de 400 millions de francs destinés aux enseignements privés, dont 300 millions pour la DEC, qui ont été adoptés il y a quelques jours par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Manuel Van Arscott, le directeur de la DEC, est satisfait de la reprise des cantines et de l'annonce de l'ouverture de discussions pour modifier la délibération 360 qui cadre le financement de l'enseignement privé.
C'est effectivement un soulagement pour tout le monde, à commencer par les élèves, les parents, nos personnels et nous-mêmes à la direction. Nous avons signé la fameuse convention pour la contribution que le gouvernement prend à sa charge en lieu et place des communes qui était donc prévue dans la 360. Donc je remercie encore une fois le gouvernement pour son action rapide et efficace, dont Mme Chamorro, qui effectivement, à la fin de la deuxième journée de blocage des cantines, m'a adressé une lettre en convenant des deux points que je souhaitais, c'est-à-dire revoir la délibération 360, ainsi que les taux afférents à cette délibération. Je regrette encore une fois, et je prie les parents de m'excuser d'avoir fait ce blocage des cantines, mais ça faisait de nombreux mois que j'attendais. Il fallait absolument quelque chose. Là, nous avons obtenu un début de discussion. C'est marqué, c'est signé par la membre du gouvernement. Les choses prennent bonne tournure.
Et la répartition s'est faite de la manière suivante. 300 millions donc affectés pour la DEC, 42 millions pour la FELP et 58 millions pour les structures de l'ex-AZ.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Est-ce une bonne idée, selon vous, d'implanter une antenne du RSMA, le Régiment du Service Militaire Adapté, dans le Grand Nouméa ? Si vous trouvez que c'est une bonne idée, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Et puis la réponse à la question d'hier. 90% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS ne trouvent pas normal que Nicolas Sarkozy, qui a été remis en liberté sous contrôle judiciaire, ait interdiction de rencontrer le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Ils sont 10% à dire à l'inverse qu'ils trouvent cela normal. Il est 11h39, la première pause de ce journal. On se retrouve pour évoquer le reste de l'actualité en Nouvelle-Calédonie dans un petit instant.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Virus, bactéries, stop. Depuis 20 ans, le spray assainissant pur essentiel purifie l'air intérieur tout naturellement. À la maison, au travail, partout avec vous, faites confiance à la force de sa formule brevetée pour éliminer virus, bactéries et limiter les sources d'épidémie. 21 études scientifiques prouvent son efficacité et sa parfaite tolérance. Numéro 1 en pharmacie. Pur essentiel, 20 ans d'efficacité à l'état pur. En ce moment, 20 séjours exceptionnels à gagner à l'achat d'un spray assainissant 20 ans. Date et règlement sur puressentiel.com.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
François Omeril achève une visite en Nouvelle-Calédonie. Le président national de la CFE-CGC était ce matin notre invité à 7h30. Il connaît et il a pu mesurer lors de son séjour les difficultés économiques actuelles. Il a aussi entendu les craintes du monde politique et socio-économique sur l'accompagnement financier de l'État. Écoutez sa réaction.
Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut que l'État assume ses responsabilités. Mais par ailleurs, il faut aussi que les acteurs sociaux, que les acteurs économiques dans l'île assument aussi leurs responsabilités. Une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose. Mais pour prendre l'exemple du prêt garanti par l'État, qui est quand même aujourd'hui à un taux relativement élevé, moi, je ne vois pas comment on peut aider la Nouvelle-Calédonie en exigeant qu'il rembourse ce prêt-là. Il faut à l'évidence trouver une structure financière adaptée pour que ce prêt soit transformé en subvention ou en quoi que ce soit qui soit utile à l'économie, mais il faut à l'évidence soutenir la Nouvelle-Calédonie dans la phase qu'elle connaît actuellement, qui est une phase un petit peu critique où il faut restaurer des espaces de confiance.
Et François Omeril estime, si les réticences de l'État sont motivées par les difficultés financières que rencontre la France, que c'est un faux problème.
J'ai 64 ans, je suis un vieux militant, ça fait 30 ans que je milite, ça fait des années et des années que j'entends nos gouvernants dire « il n'y a plus de sous dans les caisses ». Et les mêmes qui nous disent ça, ils s'acharnent à vider les caisses en créant de la dette sans la transformer en actifs. Je pense que le problème, il est exclusivement politique. C'est aux politiques de prendre les décisions adaptées à la situation. Et il faut qu'ils arrêtent de nous dire qu'ils n'ont pas le choix. Voilà, il faut que les politiques prennent des décisions adaptées, qu'ils aient une vision, une stratégie, qu'ils nous en parlent et après ils vont motiver les corps intermédiaires et ça va marcher. C'est pas plus compliqué que ça. Moi j'en ai marre d'être gouverné par des gens qui ne font que de la comptabilité. Si ça n'est que ça pour eux, faire de la politique, moi, je leur conseille de faire autre chose.
La nuit dernière à l'Assemblée nationale, les députés ont voté la suspension de la réforme des retraites. Nous y reviendrons dans un instant. Mais nous avons profité de la présence de François Omeril, dont le syndicat s'est opposé à cette réforme, s'il était satisfait de sa suspension.
Oui, bien sûr, cette suspension est une bonne chose. Après, je dois vous dire que les tractations politiques, je m'en tiens à distance. Hein. Qui a demandé quoi pour faire quoi, etc. Moi, je me méfie beaucoup de ces petits arrangements qu'il y a entre l'Assemblée et le gouvernement. Ce que je sais, c'est que cette réforme est une mauvaise réforme, qu'en vérité, elle n'a jamais été votée, elle est passée en force. Et moi, j'ai milité avec l'ensemble des organisations syndicales contre cette réforme. Pourquoi elle est mauvaise? Parce qu'en fait, elle ne règle pas les problématiques de moyen et de long terme sur le sujet. C'est une réforme qui paye tout de suite et qui crée deux catégories. Des personnes qui sont touchées et des personnes qui ne sont pas touchées par la réforme. Donc ce n'est pas une bonne réforme en tant que telle. Et elle ne règle pas les problèmes économiques, si tant est qu'il y ait de gros problèmes économiques sur la question de la retraite, ce qui n'est pas tout à fait mon analyse.
Aujourd'hui, vous affirmez que le régime des retraites n'est pas en si grande difficulté que ça ?
Ah, je l'affirme, bien entendu.
François Omeril, président national de la CFE-CGC, qui était donc notre invité ce matin, et l'intégralité de cet entretien est bien sûr à retrouver sur rrb.nc. La police communique sur le démantèlement d'un trafic de drogue à Rivière-Salée. Le coup de filet a eu lieu le 6 novembre dans un accamal. La police, la gendarmerie et les douanes ont mis la main sur plus d'un kilo de cannabis, 900 grammes de cocaïne et 200 000 francs d'argent en liquide. Le gérant et plusieurs individus ont été interpellés. Plusieurs infractions liées au code du travail, notamment dissimulation d'activité et non-déclaration de salariés, ont été constatées. Après les émeutes de 2024, le secteur de la construction et de la commande publique fait face à des défis inédits. Et pour initier la relance et la reconstruction, le gouvernement organise mercredi prochain le séminaire sur la maîtrise d'ouvrage, Léo Fichou.
Un séminaire qui se tiendra toute la journée au centre culturel Tchibaou avec quatre conférences le matin. Les modifications apportées sur la délibération 424, la qualité des constructions, le pilotage de la reconstruction et enfin la modernisation des outils de programmation. Puis l'après-midi, place à quelques ateliers, un rendez-vous qui vise à rassembler les acteurs publics, privés aussi, pour trouver des solutions et permettre une reconstruction rapide, tout en transformant en profondeur les méthodes de travail. Les précisions de Pételo Sao, membre du gouvernement chargé de la construction, de l'habitat, de l'urbanisme et de l'innovation technologique.
Le principal objectif, c'est déjà de revoir les partenaires publics et les partenaires privés, de faire le bilan des modifications qui ont été apportées en avril dernier sur la commande publique. Et c'est vraiment un enjeu pour nous de pouvoir faire de l'interactivité une réalité. Les participants auront la possibilité, à travers des QR codes, de pouvoir poser leurs questions en direct pendant le séminaire. Donc on attend beaucoup de la part des participants, notamment sur leurs ressentis, leurs ambitions, quelles sont leurs envies aussi et comment on peut les concrétiser. concrétiser ensemble. Donc c'est vraiment un aspect nouveau de la part du gouvernement d'actionner ces volets interactifs avec l'ensemble des participants. J'espère en retirer une feuille de route stratégique sur l'investissement public pour les 3 prochaines années afin de faire de la commande publique un véritable levier de la relance économique. Et ça se fera en collaboration avec l'ensemble des partenaires, des collectivités publiques, mais aussi les partenaires privés.
Le séminaire de la maîtrise d'ouvrage organisé par le gouvernement se tiendra donc mercredi prochain au Centre culturel Tibaou.
L'actualité dans la région, les alliances sécuritaires continuent de se dessiner. L'Australie et l'Indonésie ont annoncé la signature imminente d'un nouveau traité de sécurité. Il a été préparé dans le plus grand secret et hier à Sydney, le Premier ministre australien Anthony Albanese en a dévoilé les grandes lignes. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Anthony Albanese a déclaré en conférence de presse que le nouveau traité est principalement basé sur celui qui avait été signé par l'Australie et l'Indonésie en décembre 1995. Le nouveau pacte engage les dirigeants politiques et les ministres des deux pays à se consulter sur les questions de sécurité de façon à examiner ensemble quelles mesures peuvent être prises individuellement ou collectivement et identifier et entreprendre des activités de sécurité mutuellement bénéfiques. Ce traité, a précisé Anthony Albanese, représente un élargissement majeur en matière de défense et de sécurité. C'est un tournant décisif dans les relations entre nos deux pays, a-t-il insisté. C'est de la politique de bon voisinage, s'est contenté de préciser Prabowo Subianto. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal est libre. C'est l'un des premiers titres de la page consacrée à l'actualité en métropole et dans le monde que nous développons dans un petit instant.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Ce samedi 15 novembre de 8h à 13h, Caillère et Cadour vous donne rendez-vous à Caricaté 2 pour une matinée porte ouverte. Des grands terrains à petit prix à partir de 6 millions de francs. Des professionnels de la construction seront présents, ainsi que les banques pour vous conseiller. Une occasion à ne pas manquer pour concrétiser votre projet. Rendez-vous ce samedi 15 novembre à Caricaté 2 avec Caillère et Cadour.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité en métropole, en retour Jean-François Bodin.
Boualem Sansal est donc libre. L'écrivain franco-algérien de 81 ans a été gracié par le président Tebboune près d'un an après le début de son incarcération. Il a quitté Alger pour rejoindre Berlin, on va y revenir dans un instant. Mais hasard de calendrier, les membres de son comité de soutien français ont appris l'annonce de sa libération alors qu'ils inauguraient un amphithéâtre Boualem Sansal à l'ESJ, l'école supérieure de journalisme. La présidente de ce comité, Noëlle Lenoir, a fait part de son soulagement.
Ça donnait un peu les larmes aux yeux, parce que soutenir une cause comme celle-ci, c'est assez éprouvant émotionnellement. D'abord parce que parfois on se heurte à un peu de lâcheté, à des obstacles. Et puis, on a été tellement échaudés, on nous a annoncé si souvent sa libération qui n'est pas venue, qu'on fatiguait un peu. Donc c'est à la fois du bonheur, puis une certaine décompression.
Boualem Sansal est donc arrivé à Berlin ce matin pour nous à bord d'un jet. Il a immédiatement été transporté dans un hôpital de la ville. On sait qu'il souffre d'un cancer de la prostate, mais personne ne connaît son état de santé réel. Et s'il est arrivé à Berlin, c'est parce que le président allemand est intervenu dans le dossier. Et c'est un revers pour la diplomatie française. Arthur Delaborde pour Europe 1.
Pendant des mois, la diplomatie française a multiplié les appels. Emmanuel Macron lui-même a demandé la libération de Boualem Sansal. En vain, c'est finalement une lettre du président allemand qui a tout débloqué. Un appel direct à Abdelmadjid Tebboune pour un geste humanitaire envers l'écrivain de 81 ans. Une démarche rendue publique par Alger, preuve qu'elle a pesé. Il faut dire que le président algérien garde un lien très fort avec l'Allemagne. C'est à Berlin qu'il avait été soigné et sauvé du Covid en 2020. Une dette personnelle qui a pesé. Et lourd. Boualem Sansal est libre aujourd'hui et ce n'est pas Paris qui a fait plier Alger, mais bien Berlin où l'homme fort du régime algérien devrait se rendre dès la semaine prochaine. Contrairement à ce que laissent entendre le gouvernement et la gauche, ce n'est pas le bras de fer prôné par Bruno Retailleau qui a retardé cette libération puisqu'il n'a jamais eu lieu. Emmanuel Macron a refusé toute riposte graduée face à Alger. Résultat, Paris a parlé dans le vide quand Berlin a agi.
Retour en métropole où les députés ont validé la suspension de la réforme des retraites. Les seuls seuls à s'opposer à cette suspension ont été les Républicains et les troupes d'Édouard Philippe. Les députés macronistes se sont abstenus et ceux de LFI ont voté contre la suspension. Une attitude qui enfonce encore un peu plus le coin entre les socialistes et les insoumis. Le député socialiste Jérôme Guedje ne s'est pas privé de fustiger le vote LFI.
Jamais je n'aurais pensé voir quelqu'un à gauche pouvoir invoquer des arguments sur le financement ou sur tel détail technique pour justifier un vote contre une avancée sociale.
Les Républicains ont donc été les seuls avec les députés fidèles à Édouard Philippe à avoir voté contre la suspension des retraites et leur chef de file, Laurent Wauquiez, a dénoncé le populisme de ceux qui ont voté.
Oui, bien sûr, il peut être facile de vendre une suspension de la réforme des retraites faisant croire que par magie on peut baisser l'âge de départ à un moment où le nombre de retraités augmente et où celui des actifs diminue. Mes chers collègues, nous pensons au contraire qu'il faut dire la vérité aux Français. La vérité est que dans un pays qui est ruiné, suspendre la réforme des retraites est illusoire.
Le texte doit maintenant être étudié au Sénat et il reviendra ensuite à l'Assemblée nationale. Tel qu'il est, le Mercosur recueillera un non de la France. C'est le chef de l'État qui l'a dit lors d'un déplacement à Toulouse, au cours duquel il a rencontré une centaine d'agriculteurs venus avec leurs tracteurs. Une déclaration qui a plutôt rassuré ses interlocuteurs, parmi lesquels Jean-Baptiste Gibert, membre des Jeunes Agriculteurs.
Il nous a dit, en l'état actuel des choses, il ne signait toujours pas le traité. C'est positif en tout cas, ça va dans le bon sens. À voir comment ça va être articulé derrière.
Mais le monde agricole reste vigilant. Emmanuel Macron a annoncé que la France ne signerait pas le Mercosur en l'état, notamment tant qu'il n'y aura pas de contrôle aux frontières et tant que le principe de réciprocité ne sera pas acté, à savoir que les agriculteurs sud-américains soient soumis aux mêmes règles que les agriculteurs français. S'ils venaient à ne pas tenir cette promesse, les agriculteurs promettent, eux, une reprise de leur mouvement de colère. Il est 11h52, on va terminer ce journal dans un instant par la page sport et on se retrouve ensuite pour les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Le Rotary Club de Nouméa du Cossé Boulari organise un vide-grenier le 15 novembre de 6h30 à midi à l'hippodrome Henri Millard. Le prix des stands est de 4000 francs pour 9 mètres carrés à réserver sur ticket.nc. Tous les bénéfices seront versés aux enfants déficients visuels. Restauration sur place, venez nombreux pour dénicher de bonnes affaires et apporter votre soutien aux enfants.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
Infomag, l'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Le sport et quelques mots de tennis pour commencer. Après Carlos Alcaraz hier, Yannick Sinner prend lui aussi une belle option pour la qualification en demi-finale des ATP Finals. Ce matin, l'Italien a dominé Alexander Zverev en 2-7, 6-4, 6-3. Dans l'autre rencontre de la nuit, Félix Auger-Aliassime est venu à bout en 3-7 de Ben Shelton, 4-6, 7-6, 7-5. Le début de la troisième journée, la nuit avec deux rencontres au programme. La nuit prochaine, Carlos Alcaraz face à Lorenzo Musetti et Taylor Fritz face à Alex de Minaur. Venons-en maintenant à une double actualité football. D'abord sur la scène européenne avec la fin de la troisième journée de Ligue des Champions féminines, Léo Fichou.
Troisième match et troisième défaite déjà pour le Paris Saint-Germain. Les Parisiennes se sont inclinées 2-1 sur la pelouse de Manchester United. United est pointe désormais à la 16e place du classement sur 18. Pour rappel, seules les 12 meilleures équipes après 6 matchs se qualifient pour les 8e de finale. Hier, le Paris FC a fait match nul, un but partout en Espagne contre le Real Madrid. Le PFC est 14e. La seule bonne note côté français vient de l'OL. Les Lyonnaises ont enchaîné un 3e succès en autant de rencontres. Victoire 3-1 sur Wolfsburg.
Et puis demain, c'est du football toujours. L'équipe de France au masculin, cette fois-ci, jouera sa qualification pour la Coupe du Monde 2026.
Les joueurs de Didier Deschamps seront opposés à l'Ukraine, 6h45, heure de Nouméa. Avant-dernier match du groupe D, en cas de victoire sur la pelouse du Parc des Princes, les Bleus obtiendront leur billet pour le Mondial 2026 qui se déroule, je le rappelle, aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Avec quelques petites surprises dans le 11 de départ de Didier Deschamps, les titularisations de Ryan Cherki, d'N'Golo Kanté qui fait son retour et de Lucas Digne en défense.
Et on va terminer avec du football sur le territoire et ce premier entraînement en Calédonie pour le FC Mulhouse, c'était hier soir, Léana Colombo.
Les adversaires de l'AS Magenta pour le 7e tour de la Coupe de France sont arrivés dans la nuit de mardi à mercredi et moins de 24 heures plus tard, les joueurs étaient déjà à l'entraînement au stade Numadélé. L'occasion de prendre leur marque avant le match prévu ce samedi, explique Hakim Abèche, l'entraîneur de Mulhouse.
un état d'esprit de reprendre nos marques et de pouvoir voilà, remettre un peu de travail pour reprendre voilà, des séances qui correspondent un peu à remettre le corps en route, parce qu'avec le long trajet et autres, c'était vraiment très compliqué ce décalage horaire. Mais voilà, donc on prend nos marques sur un terrain, j'espère qu'il sera vraiment tendu le jour du match. Mais voilà, ça nous permet de voir dans quelle enceinte on va jouer ce week-end, et c'est une enceinte qui est très sympa.
Les Alsaciens s'étaient déjà rendus en Nouvelle-Calédonie il y a 13 ans, également à l'occasion du 7e tour de la Coupe de France. Ils avaient alors battu l'AS Lossy 3-0. Samir Kecha, capitaine du FC Mulhouse, était déjà présent lors de ce déplacement en 2012.
Ça fait super plaisir parce que la première aventure, c'était des super souvenirs avec une victoire, et au-delà de la victoire, l'aventure humaine qui a été exceptionnelle. Donc revenir, ça ressasse un peu ces souvenirs-là. Donc ça fait plaisir d'être là. Premier souvenir là, vu qu'on est sur le terrain d'entraînement, c'est notre terrain de match d'il y a 12 ans. Plein de souvenirs, le monte au stade, l'ambiance qu'il y avait, l'accueil qu'on a eu aussi, qui a été très bien, très chaleureux et très amical. Et ouais, donc tous ces souvenirs-là qui reviennent, et comme j'ai dit avant, de très bons souvenirs. On n'est pas venu en vacances, on a joué un match, et si on a fait tous ces déplacements, voilà, c'est pour essayer de donner un maximum, nous donner un maximum de chances pour la victoire.
Le coup d'envoi de ce 7e tour de Coupe de France entre l'AS Magenta et le FC Mulhouse sera donné à 15h samedi au stade Numadélé. Les billets seront en vente le jour du match au prix de 300 francs.
À 11h56, la fin de ce journal.